Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Les orages étaient menaçants hier sur la région lyonnaise, conséquence la Kermesse Festival s'est arrêtée plus tôt que prévu. À Fezin, le maire tape du poing sur la table face aux dépôts sauvages. Écologistes, socialistes, communistes, radicaux de gauche font front commun pour dénoncer une baisse de 10% des subventions régionales pour les missions locales. Le quartier de la Cité Jardin à Gerland aura sa maison de santé d'ici janvier 2029. Des jeunes aidants de 7 à 25 ans vont se réunir samedi pour discuter, danser, s'amuser et oublier le temps d'une journée. Un quotidien qui peut être éprouvant, c'est la troisième édition du Tribu Brindille Festival. On vous en parle dans ce quart d'heure lyonnais. Également dans cette édition, le bilan du grand nettoyage annuel, le coup de balai dans l'eau, à l'occasion du festival entre Rhône et Saône.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Coup de tonnerre à Lyon pour la Kermesse Festival. Peu après 22h30, hier soir, les 32 000 spectateurs réunis au Matmut Stadium ont dû évacuer les lieux en urgence. En cause, une alerte orange de Météo France prévoyant de violents orages et des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h. L'ambiance a rapidement tourné à la confusion générale. C'est l'artiste Camaro qui a d'abord annoncé l'annulation sur scène avant de parler d'une erreur d'affichage pour finalement voir l'évacuation confirmée à 23h. Selon les pompiers, le stade trop exposé au vent menaçait la sécurité des installations. Si l'évacuation s'est faite dans le calme, la déception a été immense pour le public, privé au dernier moment des concerts de Scheim ou encore de Fatal Bazooka. À Fezin, le maire tape du poing sur la table face aux dépôts sauvages. Marc Mamet prévient, ce sera désormais tolérance zéro. Les pollueurs sont prévenus, ils ont une semaine pour récupérer leurs déchets grâce aux enquêtes de la police municipale. Plusieurs auteurs d'incivilité ont été identifiés, notamment une entreprise de la région lyonnaise, sommée par courrier recommandé de nettoyer sous peine d'une amende de 1 500 €. La municipalité ne lâche rien et s'appuie sur la technologie. Deux caméras mobiles déployées dans des zones sensibles ont déjà permis de confondre 10 contrevenants en 6 mois. Autre fléau dans le viseur de la mairie, les bouteilles de protoxyde d'azote, repérées par vidéosurveillance sur le parking du fort. Des habitants de Saint-Priest ont écopé d'une amende administrative. À Fezin, l'abandon de ces cartouches de gaz hilarant coûte désormais 50 € par bouteille. C'est un véritable coup de massue. Écologistes, socialistes, communistes et radicaux de gauche font front commun pour dénoncer une baisse de 10% des subventions régionales aux missions locales, qui s'ajoute à une coupe similaire l'an dernier. Un choix politique jugé injustifiable par la gauche, d'autant qu'il intervient en cours d'année et sans concertation, menaçant directement l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Face au tollé, le président de la région, Fabrice Pannekoek, assume et renvoie la balle dans le camp du gouvernement. Selon lui, c'est le désengagement massif de l'État, notamment la baisse de 88% du soutien à l'apprentissage qui contraint la région à ses arbitrages budgétaires. Tout en saluant le travail remarquable des missions locales, l'exécutif régional affirme qu'il doit faire des choix pour tenir son cap financier. Bataille politique également autour du logement dans la métropole de Lyon. La nouvelle présidente Véronique Sarcelli souhaite supprimer l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, une mesure qu'elle juge inefficace pour créer de nouveaux logements. La réponse de la gauche ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué commun publié vendredi, les maires de Lyon et Villeurbanne, Grégory Doucet et Cédric Van Stivendel, défendent bec et ongle un dispositif qui, selon eux, protège le pouvoir d'achat. Ils rappellent que depuis son lancement en 2021, la mesure a permis de modérer la hausse des loyers, désormais 2 à 4% plus bas qu'ailleurs, et de restituer plus d'1 million d'euros de trop perçus aux locataires. Si les deux édiles partagent la priorité de construire du logement neuf, ils réclament une régulation intelligente face à une expérimentation qui doit normalement prendre fin à l'automne prochain. À Lyon, le quartier de la Cité Jardin à Gerland aura sa maison de santé d'ici janvier 2029. Le conseil municipal a voté à l'unanimité le lancement de ce chantier de près de 6 millions d'euros. Une décision très attendue dans le sud du 7e arrondissement, où le diagnostic de santé est jugé alarmant par la municipalité. Manque de généralistes, faible dépistage des cancers, l'accès aux soins y est aujourd'hui critique. Pour y remédier, un immeuble de 20 logements va être transformé en un centre de santé publique de proximité. Avec ce modèle validé par l'OMS, la ville de Lyon souhaite attirer de nouvelles générations de soignants et privilégier la prévention plutôt que la logique de tarification à l'acte.
Lyon Demain, Focus Association.
Des jeunes aidants de 7 à 25 ans se réuniront samedi pour discuter, danser, s'amuser et oublier le temps d'une journée, un quotidien qui peut être éprouvant. La troisième édition du Tribu Brindille Festival se tiendra en effet samedi au domaine Lyon-Saint-Joseph à Sainte-Foy-les-Lyon. C'est un reportage de Noam Mouret.
Grandir, c'est déjà apprendre à trouver sa place. Mais pour certains jeunes, cette place se construit aussi aux côtés de problèmes de santé de leur entourage. Cela crée une responsabilité que des enfants, parfois très jeunes, doivent assumer au quotidien. La Pause Brindy, une association lyonnaise, propose un soutien pour ce qu'on appelle des jeunes aidants. Rebecca Billy, coordinatrice, nous explique comment l'association voit les choses.
Pour la Pause Brindy, en tout cas, un jeune aidant, c'est un jeune qui a entre 7 et 25 ans environ, donc un adolescent ou un enfant ou un jeune adulte, qui va soutenir, apporter du soutien à l'un de ses proches, parce que cette personne a un problème de santé. Donc ça va être un jeune, par exemple, dont le papa ou la maman a une maladie ou un handicap ou une addiction, ou dont le frère ou la sœur a un problème de santé, ou dont ça peut être aussi son ami ou son conjoint. Et comme cette personne qui est dans l'entourage du jeune a une difficulté de santé, le jeune lui apporte du soutien parce que cette personne a un problème de santé. Et ces jeunes aidants, ils sont à peu près 1 million en France. On les estime en tout cas à 1 million en France. Si vous voulez, c'est 3 à 4 jeunes dans chaque classe de lycée selon l'étude AdoCare qui s'intéresse aux lycéens. Donc c'est quand même des jeunes qui sont très nombreux, mais qui malheureusement encore aujourd'hui ignorent leur rôle, ignorent ses conséquences, et puis qui sont assez invisibilisés aussi dans cette société qu'on a du mal à repérer et à identifier.
Et alors comment ça se matérialise dans le quotidien de ces jeunes? À travers des tâches concrètes ou plutôt de la charge mentale?
C'est un peu variable en fait, en fonction de la situation. Donc on parle de pathologies qui sont très variées, d'âges aussi qui sont très différents. Mais si vous voulez, on parle de soutien pluridimensionnel. Les deux premiers types d'aide que les jeunes aidants vont apporter, c'est d'abord effectivement le soutien moral. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment plutôt de la charge mentale, effectivement, ou de l'hypervigilance. On va s'inquiéter, on va se soucier pour son proche, on va le rassurer, on va lui parler, on va être présent pour lui, on va passer le voir, enfin voilà, c'est ce soutien moral qui est une des tâches en fait concrètes dans le quotidien, mais qui est assez immatérielle, assez peu tangible, et donc les jeunes ne se rendent pas compte qu'ils aident aussi quand ils apportent ce soutien-là. Pourtant, effectivement, c'est une grosse charge mentale. Et puis le deuxième soutien apporté, c'est les tâches du quotidien. Donc par exemple, quand on a un parent qui est malade, ben faire la vaisselle, les courses, les repas, s'occuper de ses petites sœurs, aller les chercher à l'école, c'est toutes les tâches du quotidien que ferait un jeune. Voilà, qui n'a pas ces problématiques-là, mais de manière plus importante, avec une charge plus importante. Et puis, les autres types d'aide apportées par les jeunes aidants, c'est aussi de l'aide dans les soins. Donc, s'occuper directement de la personne malade, lui préparer ses médicaments, faire des tâches de soins, lui donner à manger, le laver, l'habiller, etc. Donc, aider la personne concrètement. Et puis, ça peut être aussi de l'aide administrative pour les papiers, les dossiers, etc. Voire de l'aide financière dans certains cas. Mais finalement, c'est des tâches concrètes. Préparer des médicaments, préparer à manger. Mais c'est aussi des tâches assez peu tangible, s'inquiéter, rassurer, s'adapter à la situation. On parle d'adaptation comportementale. Et c'est vrai que les jeunes aidants vont faire un peu ces tâches de manière très variée en fonction de la situation. Mais pour nous, à la Pause Brindy, il n'y a pas de hiérarchie de ces situations-là. On va vraiment accueillir tous les jeunes, quel que soit ce qu'ils font pour leurs proches, en partant du principe que tous ces jeunes peuvent être impactés par cette situation et donc peuvent avoir besoin d'un espace où parler, être rassurés, réconfortés, être soutenus, finalement.
Vous proposez régulièrement des brins de partage. À quoi servent-ils concrètement et puis qu'est-ce qui s'y joue?
Alors, les brins de partage, c'est des activités de répit, donc où l'idée, c'est qu'un groupe de jeunes aidants par tranche d'âge, donc on va avoir des groupes pour les enfants qui ont entre 7 et 12 ans, pour les adolescents qui ont entre 13 et 17 ans, et pour les jeunes adultes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, c'est des groupes de jeunes qui se rencontrent, donc il y a déjà un côté rupture de l'isolement, tissage de liens, rencontrer d'autres jeunes qui vivent des choses similaires, donc déjà ce côté un peu rencontre et communauté. Et il y a aussi une activité, donc l'idée, c'est aussi de se vider la tête, de s'amuser, de faire quelque chose que n'importe quel jeune pourrait faire. Donc ça peut être une activité cuisine, une activité sportive, une sortie au laser game. Enfin voilà, ça peut être une activité que les jeunes ont choisi, en tout cas les jeunes de la communauté de la Pause Brindy ont choisi. Donc il y a vraiment un côté tisser des liens, se rencontrer. Il y a aussi un côté répit, se vider la tête, s'amuser. Et il y a un côté potentiellement parler de sa situation avec d'autres jeunes. Donc c'est vraiment tout ça, les brins de partage. Et ça dépend des envies et des besoins des jeunes qui sont accueillis dans les activités. Donc plus concrètement, on va dire que c'est des temps qui sont réguliers, mensuels, ou en tout cas pendant les vacances scolaires pour les plus jeunes d'entre nous, pour les plus jeunes qu'on accueille. C'est des temps qui sont gratuits, qui sont adressés à un petit groupe de jeunes, entre 8 et 12 jeunes, selon les activités. Et vraiment, l'objectif, c'est voilà, s'amuser, se retrouver, se faire des amis, parler si on en a envie et besoin.
On comprend que le rôle de jeune aidant ne se résume pas à une liste de tâches. C'est aussi une charge mentale, une vigilance permanente, comme c'est le cas d'Alice, qui nous raconte son histoire personnelle.
Moi, je suis jeune aidante de ma grande sœur qui a des addictions. et de mon père qui a une dépression à cause de douleurs chroniques que je partage avec lui.
Alors, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce genre d'événement chez la pause brindy et notamment les brins de partage ?
Je viens chercher du répit, un peu une grande pause pendant ma journée, et puis de l'amusement et du lien avec d'autres jeunes comme moi.
Et pourquoi beaucoup de jeunes ne se reconnaissent-ils pas eux-mêmes comme aidants ?
Moi, mon expérience personnelle, c'est que je l'ai su il y a 2 ans, quand j'ai été trop envahie par la situation et que j'ai appelé la pause brindy. C'est là qu'ils ont nommé pour la première fois que j'étais jeune aidante. Et je pense que ce qui a fait que je n'en avais pas conscience, c'est déjà que j'avais pas conscience du problème, que c'était pour ma sœur surtout à ce moment-là, et aussi du fait que ça avait un impact sur moi. Je n'avais pas conscience que ça me posait problème et que j'avais le droit d'avoir ce problème avec cette situation.
À quel point cette charge d'aidante, elle est importante ?
Moi, elle est constante. C'est toute la journée, 24 heures sur 24, je me demande est-ce que ma sœur va bien, est-ce que mon père va bien, est-ce que les gens autour d'eux vont bien du coup aussi, parce que ma sœur elle est maman, donc je me pose la question pour son fils. Puis en fait, pour moi ça ne s'arrête jamais d'être aidant. Je suis tout le temps dans ce lien-là, et puis ma sœur je ne peux plus en profiter comme une sœur. C'est avant tout celle que j'aide, je ne la vois plus que comme ça, que comme une personne qui dépend de moi.
Et quel message t'aimerais faire passer à travers ce témoignage ?
Moi j'aimerais que les gens comprennent que je ne peux pas arrêter d'être aidante, même si ça me pèse. Que je peux pas juste dire « Ok, c'est bon, j'arrête, c'est ma sœur, mais je suis plus son aidante. » Et j'aimerais que les gens aussi, ils entendent que nous, tout ce dont on a besoin, les jeunes aidants, c'est d'être reconnus, d'être identifiés et d'être accompagnés.
Être jeune aidant ne se résume pas à se porter garant d'un proche, c'est aussi apprendre à exister avec cette responsabilité. Reste désormais à reconnaître ces jeunes pour qu'ils ne soient plus seuls à porter ce rôle, souvent invisible, ou enfermé dans cette case de jeune aidant.
Merci Noam. Caddie, vélo et même des dizaines de cartouches de protoxyde d'azote, c'est la triste pêche miraculeuse réalisée à samedi à Lyon dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône. Le collectif des péniches de Lyon, épaulé par les plongeurs et des associations, organisait un grand nettoyage annuel baptisé le coup de balai dans l'eau. En seulement 2 heures de temps, une vingtaine de bénévoles a sorti des eaux, 4 trottinettes, des barrières, du plastique et d'innombrables mégots. L'objectif de cette matinée citoyenne, prendre soin de l'eau qui nous accueille, comme aime à le rappeler Geneviève Brichet, la coprésidente du collectif, une action indispensable pour la biodiversité qui montre surtout qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour stopper l'incivisme. Un mot de sport pour terminer en basket, c'est officiel. Tony Parker coachera l'ASVEL la saison prochaine. Le club a annoncé samedi soir la nomination de Tony Parker au poste de head coach de l'équipe professionnelle. Cette nomination constitue la première pierre d'un projet de développement d'envergure destiné à faire rentrer l'ASVEL dans une nouvelle dimension, précise le communiqué du club. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine édition. Excellente journée.